Quand j'ai accepté de participer au podcaston il y a quelques mois, qui est la mise en avant d'associations à travers des podcasts, que vous allez beaucoup entendre cette semaine sur une multitude de podcasts, j'ai tout de suite pensé à mon invité du jour, Bolewa Sabourin, qui est danseur, chorégraphe, qui est le cofondateur d'une association qui s'appelle Loba. Bolewa, on devait faire un épisode il y a quelques années, et puis finalement ça s'était pas fait, pour x, y, raison. Et là, du coup, j'ai nécessairement pensé à lui. À travers Loba, il aide les femmes qui sont victimes de violences sexistes, sexuelles, à travers la danse. Et ensemble, on va parler de mouvement, on va parler de danse, on va parler de violence, on va parler de féminité, on va parler de masculinité, on va parler des prisons. C'est une conversation qui est hyper intéressante, touchante, à plein d'égards. Et Bolewa, c'est aussi un père au foyer, donc vous allez entendre son fils de 2 ans et demi un petit peu. Et je trouve ça assez fort de sa part d'ailleurs de réussir à se concentrer autant en gérant un enfant en même temps. C'est aussi très mignon, j'espère que ça vous touchera. Une conversation qui est touchante, je crois que c'est le bon mot. Je vous laisse l'écouter. Allez Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Bolewa, comment ça va aujourd'hui?
Bonjour Greg, ça va et toi?
Ben ça va pas mal, un peu en colère j'avoue, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui.
Ah, quoique, hein, peut-être.
Ah, quoique, peut-être, on va y venir. On va parler de ton association, Loba, on va parler de toi. J'aimerais comprendre d'abord peut-être pourquoi tu t'es... Pourquoi tu as fait le choix de t'engager pour les femmes qui ont subi des violences? Enfin, parmi tous les enjeux, etc., pourquoi c'est celui-là que tu as choisi et pourquoi à travers la danse?
Je vais commencer par la fin. À travers la danse, c'est parce que je ne savais faire que ça. C'est là où j'ai mon expertise. Donc, je ne me voyais pas... reprendre des études, je sais pas, de médecine, de psychologie, ou rentrer dans des combats politiques, politiciennes. Et la danse est moi, mon outil, mon langage, ma manière de communiquer au monde. Donc, c'était pour moi, c'était ma réponse, c'était la seule solution que j'avais. Et puis aussi parce que dans mes cours de danse, depuis maintenant 20 ans que je donne des cours de danse, pendant ces 20 ans, il y a dû avoir peut-être 3 hommes, ou peut-être 4, qui sont venus dans mes cours. Donc j'ai grandi dans des milieux extrêmement féminins. Et donc, j'ai cette sensibilité-là parce que, tous les jours, tous les soirs, où je donne des cours de danse, où je travaille avec mon association, je suis toujours en minorité dans des espaces féminines. Donc forcément, j'entends ces histoires, forcément je suis impliqué, forcément ça me parle, et aussi parce que ça parle avec mon histoire personnelle.
Je comprends. Et c'est vrai que ton père faisait de la danse aussi, c'est ça, si je ne me trompe pas?
Mon père est danseur et ma mère était son élève.
C'est ça, c'est ce que j'ai compris, effectivement. Pour toi, c'est quoi le rôle du corps dans notre société? Pourquoi, en fait, on est dans une société qui, il me semble, très mentale et finalement pas très, du coup, par définition, physique. Et toi, en fait, ce que tu fais à travers Loba, c'est aussi redescendre dans le corps. J'aimerais bien comprendre, toi, ta perspective par rapport à la place du corps dans notre société.
Écoute, paradoxalement, les corps sont même plus que présents. Hein. Sans nos corps, on ne peut exister. Paradoxalement, il n'y a jamais eu autant de corps sur notre planète. On est, je crois, 7 milliards d'individus maintenant. Oui, paradoxalement, aujourd'hui, on essaye d'éliminer les corps à travers le virtuel, à travers aussi d'autres corps, l'ordinateur, le téléphone, des robots, on n'en peut finir. Et donc, il nous faut réinvestir ce corps qu'on trouve trop limité. Justement, on veut qu'il dure au-delà des temps, on veut qu'il subsiste, il subsiste autant, mais aussi on veut qu'il surperforme, on veut qu'il soit au-delà de ses capacités. On lui intègre des puces, on lui intègre des exosquelettes et autres. et donc, en fait, c'est comme si on déniait à nos corps son pouvoir et qu'on le trouve trop limité. Et du coup, qu'on donne une prépondérance à nos cerveaux, qu'on pense illimités, parce qu'il y a cette croyance qu'on n'utiliserait que 10% de nos capacités, blablabla, intellectuelles. Et donc, en fait, on n'a jamais eu autant de corps, mais on les a jamais aussi peu investis. Et parce que les machines sont arrivées, parce que nous ne travaillons plus de manière manuelle, parce que même labourer la terre ne se fait plus à travers nos corps immédiatement. Il y a un intermédiaire. Donc en fait, nos corps dans nos sociétés, surtout occidentales, petit à petit disparaissent et au profit soi-disant de nos cerveaux, mais en fait on se déleste de ce qui nous permet de sentir, de comprendre et de vivre le monde, tout simplement.
C'est hyper profond ce que tu dis et c'est hyper je pense que ça implique énormément de raison. Enfin, alors je vais repartir avec ma tête, tu vois, c'est rigolo. mais ça,
exactement.
Ça génère vachement de réflexion. Il y a un ami qui m'a dit, et d'ailleurs depuis ce jour-là, j'ai changé ma pratique. Si t'as pas une heure à donner à ton corps par jour, il parlait de sport. Bah c'est qu'il y a un truc que t'as pas compris dans ton mode de fonctionnement, c'est-à-dire que et on est dans des sociétés qui sont hyper sédentarisées et en fait d'abord il y a le travail, il y a enfin plein de choses et le sport ou le mouvement, ça arrive si vraiment t'as du temps, tu vas mettre du mouvement quelque part.
Alors c'est en fait, ça, que toi, du temps libre.
Ouais c'est ça, du temps libre.
Du temps libre. Et là tu peux t'occuper de ton corps. Alors que en fait, tu sais, dans les temps passés, étant donné que on n'avait pas autant de machines, et ben en fait nos corps étaient tout le temps en mouvement. Même quand même les débuts de la sédentarité, on était tout le temps en mouvement. On sortait de chez nous et on allait chercher à manger, faire à manger, rencontrer des gens, bêcher la terre. Toutes nos activités étaient en mouvement tout le temps en fait. Même si c'était des mouvements qui pouvaient être répétitifs ou qui pouvaient être mal ajustés, mais on était tout le temps en mouvement. Aujourd'hui, tu peux rester chez toi et ne pas sortir pendant des mois et des mois et rester sur ta chaise et de faire disparaître complètement ton corps, te faire livrer à manger vraiment jusque sur ta chaise, travailler qu'avec ton ordinateur et ne jamais te préoccuper de ton corps finalement et l'oublier au profit de ton cerveau et finalement de son extension qui est l'ordinateur. Mais sauf que pour ceux qui en ont fait l'expérience, au bout de quelques semaines, eh ben on ne sait même plus marcher. Et on a des graves problèmes liés au corps. Et une fois que vous avez des problèmes liés à votre corps, vous n'arrivez plus à réfléchir ou vous pensez différemment. C'est-à-dire que votre cerveau se reconfigure en fonction de votre douleur physique, d'abord et avant tout. Et ça, on le voit, par exemple, si tu as une rage de dents, tu t'imagines, quand tu as une rage de dents, tu n'arrives plus à penser. Tu peux avoir la plus belle récompense que tu veux, qu'on vient te donner et tout, mais quand tu as une rage de dents, tu ne peux plus parler. Tu n'es plus en capacité de pouvoir raisonner correctement. Et c'est une douleur qui est physique, parce qu'elle te prend. Et pareil, quand tu as des maux de dos, quand tu as des soucis au niveau des cervicales, au niveau des lombaires et autres, ne serait-ce que, ouais, même tu as mal à l'épaule, ton cerveau se reconfigure. Et c'est là où il est intéressant de réinterroger Nietzsche. C'est pas pour faire le mec à lu Nietzsche, parce que j'ai jamais lu Nietzsche, j'ai regardé des documentaires sur Nietzsche, et Nietzsche était quelqu'un de malade, très malade physiquement, qui faisait beaucoup de cures et tout ça en Suisse, machin et tout, en Italie, et en fait lui, il toute sa philosophie est basée avant tout à travers son expérience de son corps qui est malade, et du coup il va penser la société et penser ce surhomme là comme on utilise à partir de son expérience de la douleur et de la douleur et de ses problématiques liées à son corps. Donc, c'est vraiment le corps, comme j'ai dit, il est trop dénié. Et c'est ça notre grand problème.
Une petite question que j'ai envie de te poser aussi, c'est toi qui as des racines congolaises, est-ce que tu as remarqué qu'au Congo, c'était différent, le rapport au corps, ou est-ce que c'est la même chose? Le Congo et la Martinique, hein, si je ne me trompe pas. On a ça en commun.
Non, moi, c'est le Congo et la Rochelle.
Ah, je pensais que c'était le Congo et la Martinique. Rien à voir.
Non, la Martinique, c'est ma mère qui est partie vivre en Martinique. Ah. Et donc, elle a eu des enfants avec des Martiniquais. Et donc, j'ai la Martinique parce que mes frères, mes petits frères, dont je suis l'aîné, sont d'origine antillaise, martiniquaise.
D'accord.
Et donc, du coup, j'ai cette relation filiale avec la Martinique au travers de mes frères.
Ok, pardon. Donc, le rapport encore au Congo, alors. Juste le Congo.
Ouais, le Congo, étant donné qu'il n'y a pas autant de machines que nous, reste encore un pays où on investit énormément le corps. Et en fait, il faut savoir que lorsqu'il y a eu la colonisation, l'esclavagisme, puis la colonisation, et surtout la colonisation des Belges vis-à-vis des Congolais, leur exploitation était notamment liée au corps les esclavagistes et autres des corps des Congolais, sauf que contrairement aux Français, ils ont pas eu l'hypocrisie de dire que ils voulaient apporter la Jules Ferry là, apporter la civilisation, blablabla. Eux, ils en avaient rien à faire. Eux, il y avait pas d'hypocrisie. Ils venaient vraiment pour extraire toutes les richesses souterraines, minières et autres, et surtout le caoutchouc. Et donc ils coupaient les mains des Congolais qui ramenaient pas assez de caoutchouc. Donc déjà ça c'est très physique. Et puis vu que ils envoyaient pas les Congolais à l'école, les Congolais avaient comme une forme de moyen de lutte contre l'oppression qui était finalement de rester très ancrés dans leur culture, dans leur tradition, au travers des chansons, des danses et des musiques. Et donc, ce qui a fait que les Congolais ont de Kinshasa, hein, ont très investi ces espaces-là et donc ont très investi leur corps et ont gardé finalement ce corps comme un outil de lutte. Et une manière de résister à l'aliénation et des Belges. Et donc ça, je vous parle de ça des années 1960. Donc ouais, ce qui fait qu'aujourd'hui on voit beaucoup de Congolais qui investissent la musique, les sports et autres, les Congolais de Kinshasa justement, parce que c'est un héritage de ça. Alors que par exemple, tu verras des Alain Mabankou ou des Abdel Malik et d'autres investir plutôt la question littéraire et donc être moins dans leur corps, parce que les Français faisaient de la capitale Brazzaville un lieu, un centre de d'éducation et de formation des indigènes qui allaient ensuite dans toute l'Afrique francophone donner l'instruction aux autres pays, le Sénégal, le Mali, etc., etc. Et donc, finalement, les Congolais de Brazzaville ont été poussés à délaisser leur corps au profit, du coup, du cerveau, de la rationalité, du cartésianisme de Descartes, comme le sont les Français. Et ils sont devenus très bons. Mais les Congolais de Kinshasa, qui n'ont pas eu, comme je te disais, cette hypocrisie de la part des Belges, eh ben, sont restés très ancrés dans leur corps. Et ce qui fait que, au lieu d'avoir des Alain Mabankou, t'as des Fally Ipupa. Au lieu d'avoir des Abdel Malik, t'as des Maître Gims. Et des gens qui sont très dans le corps, qui sont très ancrés dans le corps, dans les traditions, dans les musiques et autres, et qui aujourd'hui encore, hein, on le voit, on les appelle les rois de la rumba, dombolo, toutes ces danses que l'on connaît et qui ont pilulé aujourd'hui encore dans tous les cours de danse afro et autres. On voit à quel point, justement, nos corps sont vraiment des outils de lutte et de préservation de notre patrimoine, quoi.
Et j'aimerais que tu fasses le lien éventuellement avec le corps et le fait de se réapproprier ses émotions. Parce que c'est aussi quelque chose sur lequel tu bosses et ça, c'est hyper intéressant.
Ben, en fait, émotion vient de émo vert, qui a la même racine que en mouvement, mais qui a aussi la même les émotions et le mouvement ont exactement la même racine. On voit bien là que nos ancêtres avaient bien compris que les émotions étaient justement des ressentis qui sont en mouvement perpétuel. Hein, on n'est pas tout le temps joyeux, on n'est pas tout le temps en colère, on n'est pas tout le temps bien heureux. Bref, on n'est pas tout le temps triste. Et donc, notre capacité à pouvoir véritablement bien ressentir ces choses en mouvement, c'était finalement de les incarner, d'incarner ce mouvement pour pouvoir véritablement mieux le ressentir. Et donc, le mouvement, quel est le mouvement le plus simple pour pouvoir incarner ces émotions? C'est le corps. Hein, moi, mon fils, qui a 2 ans et demi, quand il veut quelque chose, tout de suite, il va ressentir et incarner physiquement, et il va me le faire ressentir d'abord physiquement avant de me le dire verbalement. Et donc, on construit toujours d'abord et avant tout à travers le corps, par le corps, parce que c'est notre premier outil. Et donc, les émotions vont venir dans nos corps et ils vont mettre en mouvement nos corps. Et du coup, ces corps-là vont les exprimer à l'extérieur pour dire « je veux ceci » ou « je suis pas content » ou « je suis comme ci, comme ça, comme ci ». Et ça, en fait, c'est avant d'avoir la capacité de pouvoir mettre en verbe ces émotions. Et donc, c'est là où le corps, véritablement, a plus d'expérience que le verbe dans l'expression des émotions.
Et alors, pour revenir au sujet de l'OBA, c'est quoi l'origine de cette association? Pourquoi vous l'avez faite? Est-ce que c'est lié au... Parce que je sais que tu as rencontré aussi le prix Nobel... attends, je ne voudrais pas écorcher son nom, donc je vais le lire pour le coup, parce que je ne le connais pas par cœur, qui s'appelle Denis Mukwege. Tu vois, j'écorche son nom. Je sais que c'est lié à ça, mais est-ce que tu peux nous expliquer d'abord comment tu l'as rencontré, qui est cet homme, et l'impact que ça a eu sur la création de l'OBA, ou le mouvement de l'OBA, en fait, justement?
Ouais, alors, en fait, l'OBA, on l'a créé en 2007, et on a rencontré le docteur Mukwege en 2016. Donc, le docteur Mukwege, ça a été génial parce que ça a été un formidable accélérateur de mouvement pour nous, spirituellement, physiquement, intellectuellement, émotionnellement. Et ça, on lui doit beaucoup parce que c'est pour ça qu'il est prix Nobel de la paix. Hein. C'est un inspirateur dans le bon sens du terme, en fait. On sait pourquoi il inspire autant de jeunes comme nous qui l'étions quand on l'a rencontré en 2016. J'avais 30 ans. Par contre, l'OBA est né de la colère. Déjà en 2005 il y a eu les révoltes urbaines dans toute la France suite à la mort de Ziad Ebouna, deux jeunes qui avaient fui la police et parce que habitués à ces violences et qui sont cachés dans un transformateur électrique et qui sont morts à l'intérieur. Bref, ça a embrasé la France et moi j'avais 20 ans à l'époque, mon cofondateur en avait 18 et ça nous parlait parce que nous-mêmes on vivait des situations d'humiliation de la part de la police avec des contrôles intempestifs, des contrôles inutiles et des contrôles surtout humiliants devant les gens pour un rien juste parce que on était jeunes et noirs qui sont les vraiment souvent les causes de ces contrôles. Ensuite, on était danseurs et on se voyait pas aller brûler les voitures comme pouvaient le faire certains de nos amis, mais ça crée en nous du ressenti. Ensuite, 2 ans plus tard, il y a eu l'avènement du ministre de l'Intérieur de 2005, qui était Nicolas Sarkozy, et qui, lui, déjà après avoir réussi avec ses propos à embraser le pays, en plus, il est venu avec ce ministère de l'Identité nationale et de l'Immigration, avec en sous-titre Nos ancêtres les Gaulois. Et ça, pour nous, c'était vraiment trop dur parce que c'est comme si là, il nous demandait de choisir entre notre mère et notre père. Moi, ayant une maman française blanche de La Rochelle et un papa congolais, il n'y a qu'une partie de moi qui peut dire mes ancêtres les Gaulois. Mmh. Et pourquoi je devrais choisir, avoir à choisir en fait. Entre ma mère et mon père? Non, je suis les deux et basta. Même si l'un comme l'autre, on a du mal à me situer ou en tout cas à me laisser me définir comme étant les deux. Mais ça, c'est leur problème, c'est pas le mien. Mais clairement, à 21 ans, 2007, presque 22, c'est quelque chose où quand t'es en recherche d'identité, ça te fait mal. Parce que depuis que t'es tout petit, finalement, il y a une aliénation où tu veux ressembler aux blancs, tu veux être blanc, tu veux...
être normal, en fait.
Être normal, finalement. Et le blanc, c'est la normalité, c'est la norme. Et finalement, tu te rends compte que malgré tous tes efforts, tu n'y arriveras jamais. Et puis de l'autre côté, t'as mon cofondateur William Djaboum, qui lui et ses deux parents sont d'origine camerounaise. Il a grandi à Noisy-le-Grand dans le 93 et il fait des études d'éco à Paris 1, à la Sorbonne, à Tolbiac, puis au Panthéon. Et finalement, lui, ses deux parents sont bantous. Il peut pas dire nos ancêtres les Gaulois, ou en tout cas, il peut le dire, mais presque que culturellement, quoi. Hein, mais il a pas à choisir pareil entre ces deux identités. Donc ça, et pour nous, c'est une violence de plus. Et puis, finalement, la troisième raison, c'est on se rencontre avec William dans un cours de danse. Comme je l'ai dit, lui, il a toutes ses caractéristiques. Moi, j'ai grandi entre la France, le Congo, les quartiers populaires et les quartiers bourgeois. Je suis danseur, j'ai pas mon baccalauréat, je suis animateur en centre de loisirs. Et donc, on partage vraiment des choses en commun, même si on est très distancés. Et ces trois raisons font qu'on a envie de créer Loba. Loba, ça veut dire parle, exprime-toi, en Lingala, qui est une des langues du Congo. Et notre idée, c'est justement d'exprimer toutes ces violences que l'on a à l'intérieur, 2005, 2007, mais qu'on n'arrive pas à exprimer par les mots parce qu'on n'a pas les mots pour pouvoir véritablement l'exprimer. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on n'a pas les mots, on revient au corps et le corps va nous permettre d'exprimer véritablement ces violences pour nous permettre de survivre dans cet océan de violences insidieuses, parce que c'est ça qui est le plus dur, c'est qu'elle est jamais fixe, elle est toujours insidieuse, elle est toujours perfide, elle vient rentrer dans les pores de la peau, te piquer à des endroits où t'es pas encore prêt, du coup à réveiller en toi des démons qui finalement t'aimeraient qui apprendre à vivre avec. C'est pour ces trois raisons que on crée Loba, et on va pendant 5 ans mettre en place des événements qui vont rassembler le plus grand nombre de personnes, parce qu'on pense que l'art peut être un outil de transformation sociale, et donc notre baseline, c'est l'art au service de la cité, et on va pendant 5 ans, jusqu'à ce que Nicolas Sarkozy soit dégagé, on va mettre en place des événements qui vont nous permettre de retrouver en fait tous nos univers, parce que en fait moi qui venais du monde des danses congolaises, finalement il y avait que des personnes blanches qui venaient. Dans le monde du milieu du hip-hop, il y a des personnes on va dire racisées et blanches qui viennent. J'ai ma famille congolaise et là il n'y a que des personnes du coup racisées, et puis j'ai ma famille française et là il n'y a que des familles blanches. Et en fait je dois à chaque fois changer de masque social à chaque fois que je je rentre dans toutes ces, dans tous ces espaces. Et il n'y a aucun espace qui peut qui me permet de retrouver, bah, en fait, toutes ces personnes et que toutes ces personnes puissent échanger, converger, partager des moments ensemble et ne pas être comme ça en silo et écartelé, quoi. Et c'est à moi de m'écarteler, de faire le grand écart entre tout le monde. Et plutôt que ça soit à moi, bah, valait mieux que ça soit une structure qui s'est appelée Loba, qui nous permettait à William et moi de pouvoir justement retrouver tous nos univers dans un même lieu. Et dans ce lieu, on pouvait justement y avoir des danses congolaises, des danses hip-hop, de la salsa, de la batucada, du rock, du rap, de la sculpture, de la photo, tous ces arts qui finalement ramènent leur public, et tous ces publics-là finalement ne font qu'un public. À travers notre philosophie Ubuntu, je suis parce que nous sommes, faire commun, faire corps, mais sans nier et sans oublier les différences, mais au contraire en valorisant toutes ces singularités pour qu'elles puissent servir un objectif commun qui est faire corps, quoi.
Et à partir de quel moment vous vous êtes intéressé aux violences faites aux femmes? Alors, c'était depuis le début?
Ben, comme je l'ai dit, nous, ben, toutes ces questions de violence et autres, la danse et les arts étaient notre outil de résilience. Et quand on a rencontré le docteur Mukwege en 2016, et qu'il racontait que les femmes avec qui il répare, donc le docteur Denis Mukwege est chirurgien obstétricien, il répare des femmes qui sont victimes de viols comme arme de guerre à l'est du Congo. Et il nous disait que les femmes avec qui il travaille, après la réparation physique, il faut une réparation psychique. Et que la réparation psychique, eh ben, malheureusement, fonctionnait très mal, malheureusement, ou c'est comme ça, fonctionnait très mal avec juste des psys qui viendraient en individuel parler avec ces femmes. Mais que par la danse et le chant, ça fonctionnait. Et nous, ça faisait écho à ce qu'on faisait chez Loba. Et puis ben on vient du milieu de la danse, donc comme je disais, les femmes, la question des droits des femmes, ou eh ben elle est plus que, en fait elle est autour de nous tout le temps, à tout instant, chez Loba. Et puis William est lui le petit frère de trois grandes sœurs, qui fait que il a une très grande sensibilité puisqu'il a été du coup élevé par des femmes. Et donc pour toutes ces raisons, ça nous a vraiment paru évident, parce que nous, la danse nous a aidé à maintenir un cap, à sortir la tête de l'eau malgré toutes ces histoires de violence, de racisme, de d'humiliation, de négation de nos individualités, et tout ce qu'on comprenait. Parce que c'était pas que là en 2007, mais c'était aussi à travers nos corps, à travers nos ancêtres, à travers nos parents qui sont venus avant, et en fait toute une histoire qui faisait que on avait besoin de cet outil pour dire au monde qui on était, et on comprenait que d'autres personnes puissent avoir besoin des mêmes mécanismes. Et donc c'est comme ça que on s'est libéré d'un truc dont on ne parlait pas, c'était la question des droits des femmes. Pour nous, elle était tellement évidente qu'en fait, on le conscientisait pas. Mais en fait, le docteur Mukwege nous a permis, en fait, de parler de ça. C'est, en fait, le fait que lui, il en parle aussi clairement en étant un homme et sans dénier toute son histoire, eh ben, en fait, ça nous a autorisé à prendre la parole là-dessus et à aller revisiter notre propre histoire au travers de nos propres expériences, et ainsi apporter notre petite pierre à l'édifice.
Bien sûr. De quel genre de violence on parle ? Est-ce que c'est toutes les violences ? Est-ce que c'est que des violences sexuelles ? Qu'est-ce que toi, tu observes dans les femmes qui viennent vous voir ?
C'est... non, c'est... En fait, c'est pour ça qu'on parle, et elles ont raison, de violences sexistes et sexuelles. C'est-à-dire que ça va des violences... lié à leur genre, un truc tout con, tout bête. En tout cas, c'est moi je dis souvent que moi j'ai pas peur d'aller dans un parking chercher une voiture. Bon, j'ai pas le permis ni ma voiture ni de voiture, mais en tout cas de rentrer dans un parking pour aller chercher une voiture, ça ne me ferait pas peur. Par contre, pour une femme, eh ben c'est tout de suite, elle craint pour son intégrité physique. Et ça, c'est une charge mentale que moi, je ne connais pas, que je n'ai pas à gérer. J'ai une autre charge, qui est la charge raciale, que j'ai à gérer, mais je n'ai pas cette charge mentale d'être une femme, en fait. Et donc, en fait, ces violences sexistes sont une charge mentale, mais au quotidien, à tout moment, à tout instant, à tout point, puisqu'elles vivent sous domination patriarcale. Donc, c'est pas que les violences sexuelles, comme le viol ou d'autres, les féminicides, des violences, c'est vraiment des violences de genre liées au fait qu'elles sont des femmes. Et donc, il y a tout type, moi, dans les ateliers que l'on mène, on va en parler après, mais ne serait-ce que, tu sais, souvent, il y a des femmes qui me racontent que, bah ouais, tel mec, il a couché avec elle, il voulait juste coucher avec elle. Bon, elle tombe enceinte, contraception ou pas de contraception, hein, parce que la contraception, ça a des risques aussi. Et puis, il disparaît. T'imagines, il disparaît, comme ça, normal. Pour lui, pouvoir refaire sa vie, en tout cas faire sa vie.
Il continue sa vie, lui, en tout cas.
Il continue sa vie d'individu, tout seul. Alors qu'elle, elle se retrouve avec un deuxième individu. Et elle disparaît au profit de ce petit être qui arrive. Et en même temps, elle doit essayer au mieux de pouvoir subvenir à ses besoins à elle et aux besoins, du coup, de l'enfant. Mais ça, c'est une violence incroyable. C'est-à-dire que, en fait, quand on est une femme, il y a un risque qu'on se retrouve enceinte et qu'on doive disparaître au profit d'un enfant sans l'avoir choisi. C'est incroyable. Nous, on n'a pas du tout à penser ça, en fait. C'est un délire. C'est-à-dire que nous, on peut arriver, faire nos affaires, déposer notre sperme dans l'utérus d'une femme, et puis derrière, hop là, on part aux Maldives et on se fait appeler Jean-Richard et voilà, c'est tranquille. Et on peut faire ça presque indéfiniment. Et rien que penser à ça, à cette petite chose-là, eh ben en fait, montre à quel point on a des trajectoires de vie qui, dès le départ, ne sont pas équitables qui nous pousse à avoir d'autres manières de penser. Et c'est pour ça que ces violences sexistes et sexuelles, elles s'imprègnent vraiment sur des choses les plus minimes, en fait. Et en fait, ce que l'on travaille avec ces femmes, ça va évidemment de viol, de violences conjugales et autres, mais à se retrouver en tant que mère célibataire, à devoir gérer un enfant ou avoir fui un pays parce qu'elles allaient être excisées ou il y a tellement de cas individuels que on se dit mais c'est un tsunami, et on comprend en fait des colères qui parfois peuvent dépasser les lignes rouges pour certaines femmes, parce que c'est si profondément ancré, c'est vraiment si profond même, que du coup il va nous falloir nous les hommes beaucoup ramer pour permettre cette équité.
Tu parlais des ateliers, quel genre d'atelier vous mettez en place?
Du coup, suite à la rencontre avec le docteur Mukwege, on lui a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour vous être utile. Nous, on est juste danseurs, on n'a que ça à proposer. Et il nous a dit faites-nous un projet. Donc, on lui a fait un projet où on est parti en 2017 au Congo danser avec des femmes juste pour leur permettre d'avoir un temps de respiration, un temps de récréation. Et c'est devenu le projet Recréation parce que. Pour pouvoir se recréer, il faut d'abord avoir des temps de respiration, de récréation, des temps. Et donc, c'est ce jeu de mots entre la récréation à la recréation. Il faut d'abord s'octroyer de l'espace mental pour pouvoir derrière prendre le temps de remettre les choses bien en place. Et donc, De là est née l'idée de combiner un danseur et une psychologue qui vont travailler ensemble pour prendre en charge un groupe de femmes. Et depuis, donc depuis, on est rentré, on a travaillé un protocole de soins, et puis petit à petit, qu'on a appelé thérapie recréation. Et donc, on intervient depuis 2019 dans cette structure en Île-de-France, où du coup, on accompagne des femmes en situation de vulnérabilité, et on intervient pendant 2 heures entre des temps de mouvement qu'on a appelé des temps de danse, mais parce que c'était la manière la plus simple pour faire comprendre au grand public qu'on allait être en mouvement sur de la musique, mais c'est pas de la danse au sens où il y a une codification, c'est vraiment du mouvement, donc il n'y a pas besoin de savoir danser pour pouvoir venir pour pouvoir participer à ces ateliers, et des temps de parole, groupe de parole. Donc on va essayer de mettre en mouvement la parole. Et on va essayer du coup que le mouvement puisse servir de parole. Donc c'est vraiment une réflexivité toujours entre le je et le nous, et entre des temps où on est en train d'essayer de, comme on disait tout à l'heure, d'exprimer ses émotions à travers le corps, et puis derrière de pouvoir structurer ses émotions qu'on a exprimé par le corps à travers le verbe, et ensuite de repartir du verbe pour transformer ce verbe en un mouvement dans le corps qui va s'ancrer ou qui va ensuite revenir à ses émotions, et ainsi de suite. Et donc c'est toujours ce cercle vertueux qu'on essaye d'avoir pendant 2 heures.
Ok, je vois bien. Et pour les femmes qui nous écoutent, c'est disponible principalement à Paris, du coup, j'imagine.
Oui, l'idée pour nous, c'est aujourd'hui on intervient dans cette structure qui accueille des femmes en situation de vulnérabilité, mais aujourd'hui on a une doctorante qui travaille sur notre modèle thérapeutique, qui mesure l'impact et puis l'efficacité de notre thérapie recréation. Et à terme, donc d'ici 1 an et demi, quand elle aura fini sa thèse, on va pouvoir proposer des formations à notre thérapie recréation, de manière à pouvoir former des nouveaux psychothérapeutes et danseurs à cette méthode, pour pouvoir proposer au plus grand nombre de personnes cette méthode que l'on a créée. Parce que aujourd'hui, on n'a que 2 binômes et on n'intervient pas encore en direct avec les structures, et on ne peut pas prendre de cette manière en masse toutes les personnes qui viennent à nous, parce qu'on est une structure aujourd'hui d'une dizaine de personnes, et on intervient déjà, comme je l'ai dit, dans cette structure en Île-de-France toute la semaine, et on n'est que 2 binômes, et ce qui fait que on est très 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 sollicité, et nous on veut pas être la grosse structure qui accompagne tout le monde. On veut les gens soient formés à notre méthode et puissent s'en emparer et se mettre en réseau et puissent proposer dans leur localité, en prenant en compte aussi les spécificités de leur environnement, mais avec une colonne vertébrale qui est cette thérapie recréation, et qui va naître d'ici 2024. Okay. Septembre 2024.
J'ai lu un de tes posts Instagram où tu parles de ton rapport à la richesse et à l'argent, et j'ai trouvé ça hyper puissant ce que tu dis. Je sais pas si tu te souviens. Ben c'est un post récent. Hein.
Récent.
J'aimerais que tu nous redises, toi, parce qu'en fait, tu dis que tu bosses tu vois, dans énormément pas d'associations, mais de lieux. En fait, tu y travailles énormément, tu passes beaucoup de temps, et ça ne te permet pas de gagner ta vie au final. Enfin, c'est très, on va dire, léger comme équilibre.
Ouais, moi j'aime me définir d'abord, donc mon activité première, elle est d'être père au foyer, donc c'est une activité non rémunératrice. Mon activité seconde, c'est d'être danseur, chorégraphe et professeur de danse, c'est celle-ci qui est mon activité la plus rémunératrice. Et mon activité troisième, c'est c'est d'être cofondateur de l'association Loba. Et au sein de cette association, j'en suis le secrétaire général et surtout, j'en suis l'instigateur, l'impulseur de la thérapie recréation, mais aussi de la compagnie de danse recréation, mais aussi des ateliers masculinité. Quand les personnes ne peuvent pas mener bien, déjà moi je mène toutes ces activités, mais quand d'autres personnes ne prennent pas le relais, c'est toujours moi qui viens en secours et ouais, donc voilà. Donc moi j'ai fait un choix d'être père au foyer, donc déjà je savais que je gagnerais pas beaucoup d'argent, mais par rapport à toutes les activités que je mène, donc moi Loba ça fait 16 ans que ça existe, donc ça fait 16 ans que je parcours la France à travers nos actions et autres. Et donc, c'est vrai que toutes ces activités-là, et je suis aussi auteur d'un livre qui s'appelle « La rage de vivre » et qui me permet de faire quelques conférences qui, de temps en temps, fait rentrer. Mais je suis tellement pris par Loba et par mon fils que finalement, et puis par mes entraînements de danse, parce que la danse, c'est, comme vous le savez très bien, c'est hyper précaire. Il faut beaucoup s'entraîner pour gagner très peu. Et donc, c'est vrai que ça m'a poussé déjà à avoir un rapport à l'argent qui est complètement différent. C'est-à-dire que j'en suis malheureusement totalement éloigné parce que, en fait, j'ai rencontré tellement de gens qui m'ont soutenu et qui me soutiennent à des moments où parfois j'étais dans le down, que finalement déjà je suis très très reconnaissant de ce que la vie m'apporte tout le temps. Aujourd'hui, moi, je travaille avec des femmes qui sont en situation de très grande vulnérabilité. Et le post Instagram que j'avais fait, c'était en sortie d'un atelier sur les masculinités que j'avais mené en prison. Et entre les femmes que l'on accompagne tous les lundis, que j'accompagne sur ces ateliers thérapeutiques et qui me racontent et qui vivent dans des situations de vie qui sont mais incroyablement difficiles, certaines viennent aux ateliers de danse, elles dorment dans des hôpitaux, dans la rue. Et malgré ça, elles viennent danser, elles viennent s'exprimer. Et moi, je vais rentrer dans mon petit studio avec ma femme et mon fils. Mais j'ai ma femme et mon fils. Et tous les jours, je mange à ma faim. Elles vont au Resto du Cœur. Elles me disent souvent, moi, je traîne mon caddie. C'est pour dire qu'elles prennent leur caddie, elles vont au Resto du Cœur et on leur donne, et c'est ça leur vie. Certaines, pour aller prendre des douches, elles sont obligées d'aller prendre des douches publiques, elles sont obligées de laisser leur enfant bébé dans l'appartement, dans le studio, même pas un appartement, même pas un studio, dans les chambres d'hôtel ou des chambres d'hébergement où elles sont, pour pouvoir aller prendre leur douche. Parce que les douches publiques ne sont pas conçues de manière à pouvoir faire qu'un bébé se pose pendant que maman prend la douche. Bref, elles ont des situations de vie qui vraiment nous poussent à l'humilité et nous poussent à nous rendre compte vraiment des richesses que l'on a déjà, en fait. Et à pas chercher à toujours vouloir plus, parce que finalement, on a déjà énormément. Et puis ensuite, je sortais de prison. Quand vous passez toute une journée en prison et vous voyez ce milieu hostile où les gens sont enfermés et dans leur corps et dans leur tête, et que vous allez rentrer chez vous au chaud le soir, honnêtement, il y a moyen de se rendre compte quand même un petit peu que vous êtes plutôt bien loti. Moi, j'ai la chance de pouvoir être père au foyer, même si ma vie est très précaire financièrement. J'ai la chance de pouvoir avoir mon fils tous les jours, même s'il m'embête, là, comme là, Eliakim, arrête. Mais c'est une chance incroyable que je peux avoir, que tous les jours, je suis avec lui. Tous les jours, on travaille ensemble, on bouge ensemble, on s'embrouille ensemble, mais on se kiffe ensemble. Et en même temps, ma femme travaille, gagne sa vie, parce que les femmes, malheureusement, du fait de vivre sous domination, elles ont toujours à devoir faire des preuves, alors que moi, c'est bon, j'ai fait mes preuves et je peux être père au foyer, le revendiquer et le crier sur tous les toits. Au contraire, on me dit encore plus bravo. Donc à chaque fois que je fais un truc qui est juste du bon sens, on me donne fois deux les félicitations que pourrait avoir une femme. Donc, vous voyez, vraiment, je suis à chaque fois trop béni. Du coup, bah, j'ai un rapport avec l'argent où je veux juste pouvoir faire mes courses tranquille quand j'en ai envie, sans avoir à regarder combien je vais dépenser. Au fond, c'est que ça. Et du coup, si on arrêtait de chercher à gagner sa vie plutôt que d'essayer de vivre sa vie, c'est-à-dire de vivre avec ce que l'on a, plutôt que d'essayer de toujours vouloir plus que ce que l'on a, eh ben, on se rendrait compte, j'en suis sûr, qu'on est déjà hyper méga riche et que cette richesse, on aurait juste à l'optimiser, en fait. Et moi, aujourd'hui, grâce à l'OBA, tu vois, là, je pars à New York la semaine prochaine pour faire des conférences sur l'OBA, sur ce que l'on fait. Je suis la personne la plus riche et la plus pauvre de France, quoi. tu vois, là, ces 3 derniers mois, j'ai gagné 0 euro. Mais je suis allé à Dieppe, je suis allé à Romans-sur-Isère, je suis allé à Hörmingen, j'ai été invité, je sais pas moi, dans des colloques avec Elisabeth Rome, Madame Moreno et bien d'autres personnes. Je suis allé à Épernay, capitale de du Champagne. Bref, je suis tout le temps en mouvement, mais je peux être en mouvement et gagner 0 euro. Sauf que sur le moment, je gagne 0 euro, mais dans un an, 2 ans, toutes ces personnes ou toutes ces choses que j'ai faites, eh ben en fait, génèrent forcément de l'argent à un moment donné. Génèrent de l'argent à un moment donné. C'est juste que sur l'instant T, pour payer les couches de mon fils, pour lui payer sa draisienne ou des nouvelles chaussures parce que les autres sont flinguées ou trop petites, eh ben c'est un peu dérangeant. Voilà, ça c'est clair. Mais sur, dans 6 mois, 1 an, tout ce que j'ai fait va générer de l'argent sans que je sois moi-même l'instigateur au sens où je voulais que ça crée de la richesse monétaire. Je ne sais pas si... Et je voulais que ça fasse que ça crée d'abord une richesse humaine liée aux rencontres et que ça transforme les individus. Et finalement, derrière, ça transforme ça en richesse monétaire. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Si, complètement. Si, c'est complètement ça. Et tu parlais de masculinité et d'aller en prison. Pour toi, on en est où de la masculinité en France ?
Oh là là.
C'est une longue question.
Non, c'est très simple. Non, elle est très très simple. Au contraire, regarde Macron. On en est là. Macron est l'exemple même de la masculinité en France. C'est-à-dire une personne qui se croit Jupiter, qui est totalement éloignée des considérations des personnes qui aujourd'hui ramassent ses poubelles, et que Macron, quand il va prendre sa retraite à 40 et quelques années, quand il vient nous dire que les autres, celui qui ramasse ses poubelles va devoir prendre sa retraite à 64 ans, on en est là en fait de la masculinité. C'est-à-dire que aujourd'hui on a des hommes qui pensent que s'ils en sont là où ils en sont, ce n'est que dû grâce au fait qu'ils sont supérieurs à la moyenne des individus qui sont aux côtés d'eux. Et en fait, c'est ça le pire des hommes, c'est qu'on croit que ce que l'on a, on le doit qu'à nous-mêmes. Faut se rappeler que déjà, si on est là aujourd'hui, c'est grâce à nos ancêtres. S'il n'y avait pas d'ancêtres, on ne pourrait pas exister. Donc déjà, il faut regarder nos ancêtres. Ensuite, quand on regarde nos ancêtres, on n'a pas tous les mêmes ancêtres. On a des ancêtres qui ont subi plus que d'autres. Donc entre mes ancêtres à moi et ceux de Macron, je pense qu'il y en a qui ont un peu plus subi. Donc déjà, il y a tout ça. Ensuite, il y a le fait que nos ancêtres qui ont construit le monde dans lequel on est étaient principalement des hommes. Et du coup, on bénéficie des privilèges qu'eux ont créés et qui aujourd'hui sont notre héritage. Donc si aujourd'hui Macron est Macron, c'est-à-dire Jupiter là, isolé dans sa tour d'ivoire, froid, à nous expliquer la vie, c'est bien parce que véritablement, il bénéficie d'un privilège masculin qui est celui qu'on considère que les personnes les plus aptes à gouverner le monde, à gouverner notre France, à gouverner la Terre, ce sont des hommes. Et que les femmes, finalement, on les appelle, comme Madame Borne, là, on les appelle qu'en cas de situation perdue, quoi. Et là, il y a une égalité. Donc, pour revenir à mon propos, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question des masculinités, c'est un impensé en France. On ne le pense pas, on ne le construit pas, on le réfléchit pas de manière politique et de manière individuelle aussi. Parce que de manière individuelle, moi, avant de rencontrer le docteur Mukwege, de rencontrer toutes ces femmes qui nous racontent toutes ces violences dont on a l'impression que c'est une épidémie, et finalement, de d'interroger mes potes sur qu'est-ce qu'être un homme, eh ben en fait, je m'étais jamais posé la question de qu'est-ce qu'être un homme. Parce que pour moi, j'étais boléwa, point barre, et que ça me suffisait amplement. Par contre, les femmes, depuis la nuit des temps, vu qu'elles vivent sous domination, elles se posent la question de c'est quoi être un homme. Comme la question de c'est quoi être un noir. Moi, je me suis posé la question avant tout de c'est quoi être un noir. Hein, parce que je vis sous domination blanche, et donc du coup, je me suis posé cette question-là. Donc, en fait, nous, en France, on a encore du mal à se poser la question de manière individuelle et de manière collective et d'en tirer un maximum de réflexion et d'enseignement sur nos comportements, sur notre manière d'être, qui nous permettrait d'être plus en phase avec la réalité de notre environnement, de notre société, de notre Pachamama, mais aussi avec les enfants, les femmes, les non-humains, etc., etc. Et pour moi, si on arrive à véritablement penser les masculinités, ce plus petit dénominateur commun, et ben derrière, on va créer un précédent, une brèche qui va nous permettre de continuer ce travail que les femmes ont déjà démarré, qui est de repenser notre monde, notre système, notre vie et le pourquoi de notre vie dans ce monde, en fait.
Tu disais que tu allais en prison. J'ai aussi, on a une amie commune qui s'appelle Mayua, qui est allée en prison aussi pour montrer son documentaire Make Me a Man. Et la question que je me posais, c'est qu'est-ce que tu vois, toi, en prison de ces j'imagine que tu vas avoir des hommes. Qu'est-ce que tu vois de la masculinité en prison? C'est quoi les hommes que tu rencontres?
Les hommes qu'il y a en prison ont les mêmes caractéristiques que les hommes que nous sommes, c'est-à-dire qu'ils sont pour beaucoup des handicapés émotionnels, sauf que ces handicapés émotionnels, ils ont poussé ça très très loin à un niveau où qui fait qu'aujourd'hui, ils sont en incapacité de pouvoir exprimer leurs émotions, ce qui a généré des violences, et ces violences les ont entraînés en prison, tout simplement. Et ces violences, elles peuvent être de plusieurs ordres, d'ordre économique, d'ordre social, d'ordre culturel, d'ordre familial. C'est juste qu'eux, ils sont un concentré de cette masculinité. C'est pour ça que j'aime d'autant plus aller en prison, parce qu'ils sont vraiment la pointe visible de l'iceberg de ces handicapés émotionnels. Parce que les masculinités, en tout cas la masculinité hégémonique, nous apprend à taire nos émotions, à ne pas à rester que purement irrationnel, à ne pas être en capacité de pouvoir exprimer nos émotions, parce que exprimer des émotions ferait de nous des femmes, ferait de nous des êtres, des sous-humains, des sous-êtres.
Déjà, c'est considérer la femme comme un sous-être, par définition.
Exactement, parce que le mâle est forcément un être froid, un être rigide, un être qui, en tout point, en tout instant, se contrôle, est en maîtrise. Contrairement à la femme qui est hystérique, qui laisse déborder ses émotions, qui ne se contrôle plus et qui ressemble plus à un enfant qu'à un adulte. Voilà. Et en fait, du coup, en prison, c'est exactement ça. Ce sont des hommes, pour beaucoup froids, ou en tout cas on sent une grande colère, mais qu'ils essayent de canaliser au maximum et qui n'ont pas d'espace pour pouvoir exprimer ces émotions, à part dans le sport. Et puis, quelques ateliers comme nous, quand on vient. Mais voilà, c'est là où, en fait, moi, j'aime travailler avec eux parce que finalement, à chaque fois, à chaque fin d'atelier, c'est ce qui en ressort, c'est qu'il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on se parle et il faut qu'on arrive à parler. Et il faut qu'on arrive à trouver des personnes à qui on peut parler. Des psys, mais aussi des amis, mais aussi tout un tas de personnes. Pour véritablement... arriver à être cohérent entre ce qu'on ressent à l'intérieur, ce que l'on pense et ce que l'on vit à l'extérieur. Et ça, ils le sentent très bien, mais comme j'ai dit, ils sont des handicapés, donc ils n'arrivent pas à trouver les outils pour pouvoir s'exprimer.
C'est tellement intéressant. Merci beaucoup, Boléo. C'est passionnant. Et en plus, je suis très... pas respectueux, c'est pas le terme, mais impressionné par ton calme en voyant ton fils qui passe dans tous les sens. T'as cette capacité à rester concentré, c'est assez formidable. Je sais pas comment tu fais, mais c'est deux années de pratique.
Exactement, c'est deux ans et demi là maintenant, et ça fait deux ans du coup que je suis père au foyer, donc lui et moi on se comprend. Bon, après là je triche un peu, heureusement que sa mère est pas là, mais il est sur le téléphone, et donc du coup ce qu'on n'aime pas, ça aide. Mais c'est vrai que c'est quand même deux ans de pratique, il est tout le temps avec moi, à la danse, partout, donc voilà.
La question que je pose à tous les invités, c'est que le podcast s'appelle Vlan, donc je veux savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte.
À plusieurs niveaux, c'est une très bonne question, merci beaucoup. Mais à plusieurs niveaux, elle est importante. Je vais le faire à l'échelle micro, à l'échelle macro. Donc je vais répondre deux fois. Je vais commencer par le macro. Je pense que j'aimerais vraiment claquer la porte du patriarco-capitalismo masculinito-gémonico dans lequel on peut vivre, et j'aimerais ouvrir la porte à une équité, une complémentarité des forces et des faiblesses avec tout le genre humain, le plus large possible, et ça c'est vraiment ce que je souhaite le plus, mais c'est mon combat de plus qu'une vie,
bien sûr.
Et à échelle micro, j'aimerais claquer la porte de la France et m'ouvrir la porte des États-Unis. Parce que du fait d'être français, en fait, je suis fatigué de voir un pays qui a autant de potentiel, qui crée des génies qui sont stupides, typiquement. Voilà, Macron, c'est un génie stupide. C'est qu'il met tout son génie dans la bêtise, c'est-à-dire le moi, et regardez-moi, et je vais essayer de laisser ma trace comme le général de Gaulle, comme blablabla, tout ça. Ça, je trouve que la France, on est les rois de notre planète à avoir un narcissisme qui est énorme, qui fait que, du coup, tous les outils que l'on construit qui nous permettent de développer nos capacités, elles sont tuées dans l'œuf du narcissisme à outrance. Et de l'autre côté, je veux m'ouvrir le champ des États-Unis, parce que à cause de la France, je parle pas anglais, mes études d'anglais depuis la sixième jusqu'à la troisième, c'est Kevin is in the kitchen, tu vois, même maintenant j'ai du mal à le dire, et du coup c'est tout un champ de réflexion que je n'ai pas accès parce que je suis limité par mon français, par ma francité, et donc je veux m'ouvrir le champ des États-Unis pour me reposer, parce que forcément quand on est dans un autre pays, on est moins impliqué émotionnellement, en tout cas pour ma part, mais aussi pour m'ouvrir au champ des possibles, de la réflexion autour de tous ces sujets qu'on vient d'évoquer aujourd'hui. Et puis oui, moi en tant qu'être humain, de voir le monde différemment, comment il est traité différemment dans un pays de 300 millions d'habitants.
Parfait. Voilà. Merci beaucoup.
Tu veux dire quelque chose ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux dire quoi ? Le téléphone, il a quoi ? T'as bloqué le téléphone. Eh ben bravo. Bravo. Comme ça, il n'y a plus d'utilisation du téléphone.
Merci beaucoup, Boléo.
Merci à toi, Greg.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg From Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt !